Vous écoutez, on lit pour vous.
Plongée au cœur du syndrome de fatigue chronique. Un texte de Laïla Malouf, paru le 28 mars 2026 dans la presse. Avec Clara Ella, enquête intime sur un mal invisible, l'animatrice et autrice Catherine Perrin se livre à une investigation saisissante et scrupuleuse sur une maladie méconnue. Un essai qui nous happe dès les premières pages et qu'on dévore avec un sentiment d'urgence. Au Canada seulement, les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique, EMSFC, se comptent par centaines de milliers. Une grande majorité sont des femmes, et on ignore toujours pourquoi. Tout comme il n'existe à ce jour aucun médicament ni cure miracle pour en guérir. Tout d'un coup, sans que l'on connaisse encore exactement les causes, ces gens très productifs sont arrêtés et deviennent dépendants des autres, explique Catherine Perrin. C'est ce qui est arrivé à sa nièce, Clara, la fille de sa sœur Agnès, qui vit en Allemagne depuis une quarantaine d'années. Catherine Perrin l'admet d'emblée au début de son livre. Au moment où le drame de Clara commence, elle faisait partie des sceptiques du syndrome de fatigue chronique. Je venais même de l'école de pensée qui disait « Je suis fatiguée, je vais me pousser un peu plus. Je vais aller faire de l'exercice, puis ça va aller mieux. Quand on bouge, l'énergie vient. » J'avais une espèce de construction mentale très productiviste, très achiever. Je pensais que quelqu'un qui était en fatigue chronique, c'était quelqu'un qui était un petit peu douillet, se souvient Catherine Perrin. Mais ma nièce était tout sauf douillette. C'était une exploratrice de la vie dans toutes ses dimensions. Impuissante, séparée par un océan et des milliers de kilomètres, elle a été témoin de la chute brutale de Clara et de ses rechutes successives, qui l'ont confinée à son lit et réduite à manger de la nourriture en purée, incapable de prendre soin de son fils en bas âge. C'est à partir de ce moment-là que l'autrice s'est mise à fouiller sur cette maladie. D'abord et avant tout pour soutenir sa sœur et l'informer de tout ce qui pouvait être fait pour aider Clara, puis rapidement avec un autre objectif dans sa ligne de mire. Je me sentais affolée de voir ma nièce que j'adore dans cet état et affolée devant les préjugés que j'avais, confie Catherine Perrin. Plus je me renseignais, plus je découvrais des choses qui me surprenaient. L'écriture du livre s'est imposée quand je me suis rendu compte que très peu de gens semblaient au courant de ce que je découvrais. Le but n'était pas juste de raconter l'histoire de ma nièce, c'était de mieux faire connaître cette réalité. De la recherche à l'intime. Catherine Perrin entreprend donc de vulgariser dans son livre le fruit de ses recherches et de ses discussions avec des spécialistes, comme le docteur Alain Moreau, la docteur Emilia Liana Falcone ou encore la docteur Arline Aude Bérubé, pour ne nommer qu'une poignée d'entre eux. Dans son souci de livrer une information juste et exacte, elle s'est assurée de faire valider par ses experts tout ce qui touchait à leur champ d'expertise. L'autrice relate également dans son livre ses nombreuses discussions avec des personnes atteintes, comme Cécile Damour, qui a d'abord été frappée par l'EMSFC en 1979 et qui a trouvé, après des décennies de souffrance et d'errance, le moyen de se composer une vie avec cette réalité. À ce compte-rendu de la réalité de cette maladie, des études et des avancées scientifiques qui heureusement s'accélèrent, note-t-elle, elle entremêle la vie personnelle de Clara et celle de sa mère, devenue proche aidante à temps plein de sa fille qui a aujourd'hui 38 ans. Au fil des pages, on se surprend à s'attacher à Clara. On passe de l'effroi à la peur, tout en mesurant avec consternation l'ampleur de ce qu'elle vit. Quand j'ai commencé le livre, j'ai dit à mon éditeur que ça se peut que ce ne soit pas un happy end du tout, que ça aille juste de mal en pis. J'ai vécu mon enquête dans toutes les phases de l'évolution de son état, explique Catherine Perrin. Rassurez-vous, après avoir traversé des moments extrêmement difficiles, Clara va beaucoup mieux. Mais Catherine Perrin prend soin de préciser que les approches qui peuvent donner des résultats encourageants chez certains patients n'auront peut-être pas l'effet escompté pour d'autres. Elle nous laisse découvrir dans son livre ce qui a aidé Clara à traverser le pire. En espérant que l'histoire de sa nièce puisse apporter un peu d'espoir aux personnes atteintes et à leur entourage, tout en levant le voile sur ce mal qui est resté dans l'ombre depuis trop longtemps. C'était « Plongée au cœur du syndrome de fatigue chronique », un texte de Laïla Malouf, paru le 28 mars 2026 dans la presse.
Les années passent et le goût décline. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 mars 2026 dans la presse. Une lectrice, Emma Boileau, demande « Est-ce que nos papilles gustatives perdent de la vigueur en vieillissant? » Oui, pour plusieurs raisons, dont certaines sont mieux comprises que d'autres. Avec l'âge, la quantité de salive décline, explique Bart Kayser de l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée, qui a publié une étude sur les effets pour la santé de ce phénomène en 2021. La salive est importante pour distribuer les molécules de nourriture sur les papilles gustatives. Celles-ci fonctionnent moins bien quand il y a moins de salive. Certains médicaments, notamment des antihypertenseurs ou les antidépresseurs, diminuent aussi la production de salive, note le microbiologiste de la haie, qui faisait partie d'une équipe multidisciplinaire à l'origine de l'étude publiée dans la revue Scientific Reports. Parmi les autres raisons du déclin du sens du goût, on retrouve celui de l'odorat. Selon Nader Sadeghi, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, CUSUM. Le goût est lié à l'odorat, dit le chirurgien et otorhino-laryngologue ORL montréalais. On l'a vu avec la COVID-19 qui altérait l'odorat chez certains patients, poursuit-il. Leur sens du goût était aussi affecté. Et l'odorat diminue avec l'âge pour plusieurs raisons. L'odorat décline avec l'âge parce que les canaux qui amènent les gaz au nerf olfactif se bouchent progressivement avec les années. Selon l'Université technique de Dresde, qui publiait une étude sur le sujet en 2025 dans les European Archives of Otorhinolaryngology, les nerfs et les aires du cerveau qui interprètent les odeurs et les goûts et deviennent aussi moins fonctionnels au fil du temps, ajoute le docteur Sadeghi, qui dirige la division d'ORL au CUSUM et travaille au programme sur le cancer de l'IR-CUSUM. Les milliers de papilles gustatives qui se trouvent principalement sur la langue connaissent aussi une dégénérescence avec le poids des ans, dit-il. Comme l'ouïe ou la vue, les récepteurs et le système nerveux liés au goût deviennent moins efficaces quand on vieillit, dit le docteur Sadeghi. Ménopause. Le sens du goût des femmes et des hommes commence à diverger avec la ménopause, qui peut diminuer la taille des papilles gustatives ainsi que la quantité de salive, dit le chirurgien de McGill. Le tabagisme diminue aussi l'efficacité des papilles gustatives, dit le docteur Sadeghi. Et les allergies respiratoires et alimentaires peuvent affecter le goût et l'odorat. Certaines maladies peuvent affecter le goût. Le diabète, par exemple, affecte les terminaisons nerveuses. L'affaiblissement du goût peut également causer des maladies. L'étude du Néerlandais Bart Kayser montre que les personnes âgées qui goûtent moins les aliments tendent à avoir une moins bonne alimentation, ce qui provoque une altération du microbiote buccal qui pourrait à son tour affecter la santé générale de manière négative. Le microbiote buccal est l'ensemble des micro-organismes de la bouche. Vous avez une question scientifique? Écrivez-nous. En savoir plus, source Université du Colorado, de 2 à 4 semaines, 2 points, période de remplacement normal des papilles gustatives humaines. Source Oris nasus larynx, de 0,02 à 0,05 mm, 2 points, taille des papilles gustatives. C'était « Les années passent et le goût décline », un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 mars 2026 dans la presse.
L'amitié fantasmée. Un texte de Florence Dancause, paru le 5 avril 2026 dans la presse. Le groupe d'amis stéréotypés que l'on voit à la télévision, à la Sex and the City ou à la Girls, se réunit très souvent autour d'une bière ou d'un brunch et se raconte ses péripéties. Lorsqu'on compare sa vie sociale à ce modèle, on peut se sentir inadéquat. Lorsqu'on entre dans l'âge adulte, le cercle social tend à diminuer. On entame une carrière, parfois on déménage, on a des enfants. Bref, les responsabilités augmentent et le groupe d'amis du secondaire ou de l'université n'est souvent plus aussi présent qu'avant. Au Canada, les personnes âgées de moins de 25 ans peuvent compter environ 24 amis, selon des données de Statistique Canada de 2013. Leur nombre diminue avec l'âge. 20 amis pour les 25 à 34 ans, 19 pour les 35 à 44 ans, 15 pour les 45 à 54 ans et 11 pour les 55 à 64 ans. Malgré ce groupe d'amis moins élargi, le nombre d'amis proches reste sensiblement le même. 5 pour les moins de 35 ans et 4 pour les plus de 35 ans. Comment décrire l'amitié à l'âge adulte? Comme étant compartimentée, avance Tracy Vaillancourt, professeure titulaire à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Plutôt que de compter sur un cercle très soudé, on a des amitiés individuelles qu'on voit dans des contextes particuliers, souvent en jonglant avec un horaire chargé. On prend des cafés avec une amie de longue date, on croise un autre aux entraînements de soccer de notre progéniture, on court le midi avec un collègue. Malgré ces liens amicaux, plusieurs se sentent seuls et pas vraiment connectés aux autres, mentionne la professeure Tracy Vaillancourt. En 2024, 14 % des Canadiens de 25 à 54 ans disaient se sentir seuls, selon Statistique Canada. Les cercles idéalisés. Sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos d'amis qui organisent des soirées ou même des week-ends dans des chalets pullulent. C'est facile de sentir qu'on n'appartient à nulle part, met en lumière l'autrice et conférencière Karine Côté-Andretti, qui a écrit « Port d'attache, osons révolutionner nos amitiés ». La pression vient aussi de la culture populaire. On pense à la série Friends, où Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler et Joey sont toujours réunis, ou à Sex and the City, qui met en scène des amis qui se soutiennent à travers leurs déboires affectifs autour de brunch. La satisfaction que les gens ressentent face à leur cercle social croît avec le nombre d'amis. C'est ce qu'a démontré un sondage du Survey Center on American Life en 2021. Un filet social plus grand pour expliquer ce haut niveau de satisfaction pointe la psychologue Léonie Lemire-Théberge. Par exemple, si quelqu'un vit une rupture, chaque personne du groupe d'amis peut se relayer pour aider et apporter du réconfort, explique-t-elle. Un gang est aussi synonyme de culture commune et d'un sentiment d'appartenance, ajoute Karine Côté-Andretti. Qui croit qu'on romantise un peu trop ces clans tissés serrés? Des conflits peuvent survenir. Il faut aussi naviguer entre les différentes personnalités et attentes du groupe, décrit-elle. La charge mentale, que ce soit l'organisation d'activités ou simplement le maintien des liens, peut tomber sur une seule personne. Dans Friends, c'est clairement Monica. Qu'est-ce qui arrive si elle décide de se désengager, puis de ne plus ouvrir les portes de son appartement, donne-t-elle en exemple. S'engager dans l'amitié. Les gens se comparent à quelque chose qui n'est pas la norme, expose Tracy Vaillancourt. Le sentiment de solitude vis-à-vis de nos amitiés pourrait moins être causé par leur quantité que par des besoins non comblés. De quoi a-t-on réellement besoin? Des amis qui sont là pour nous, qui nous soutiennent et qui nous font nous sentir bien, relève la professeure titulaire à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Peu importe leur nombre, fait-elle valoir. Selon Karine Côté-Andretti, on devrait davantage célébrer les amitiés individuelles. Celles-ci sont habituellement plus profondes et intimes et ne sont pas moins satisfaisantes. Envie de se sentir plus connecté à ses amis? Il faut de l'engagement et peut-être reconsidérer la place qu'on leur accorde, souligne l'autrice. Dans son livre paru en 2024, elle proposait justement de remettre l'amitié au cœur de nos vies et d'oser avoir des projets de vie avec eux, et pas seulement avec notre conjoint ou notre conjointe. Parce que même dans Friends, les amis sont considérés comme un passage temporaire avant de fonder sa famille nucléaire, évoque Karine Côté-Andretti. Moi, l'amitié, c'est une saison dans laquelle j'ai envie de m'enraciner à long terme, témoigne-t-elle. Nous sommes nostalgiques de nos gangs d'amis? Rien ne nous empêche d'en créer un. On peut s'investir dans le comité social au travail ou de renouer avec d'anciens groupes, souligne la psychologue Léonie Lemire-Théberge. Autre astuce, on ritualise les rencontres amicales, en se voyant par exemple chaque mois autour d'un repas. Or, on ne doit pas dévaloriser ses relations d'amitié avec les gens que l'on voit au quotidien, mais qui sont plus superficiels. Ça fait partie de notre communauté et de notre village, illustre Karine Côté-Andretti, qui croit que les gens sont nombreux à désirer ces contacts plus fréquents. En 2022, c'était un peu moins d'un Canadien sur cinq qui voyait des amis au cours d'une journée, alors qu'en 1986, c'était le cas pour près d'un Canadien sur deux, d'après Statistiques Canada. En fin de compte, qu'on soit plutôt une personne de gang, d'amitié individuelle ou d'un mélange des deux, chaque type d'amitié nous apporte ses richesses, rappelle la psychologue Léonie Lemire-Théberge, qui explique que ce qui compte vraiment, c'est de ne pas être isolé. C'était « L'amitié fantasmée », un texte de Florence Dancause, paru le 5 avril 2026 dans la presse.
Le Pinot Noir, ce célèbre cépage de la Bourgogne, dont on tire des vins rouges prestigieux tels que le Romané Conti, est identique à celui qui était cultivé au Moyen Âge. François Ier et Catherine de Médicis ont donc bu du vin issu de raisins identiques à ceux qui sont utilisés pour faire les Pinots Noirs que nous buvons aujourd'hui. C'est ce que révèle notamment une grande étude d'archéogénomique des vignes de France, publiée dans Nature Communication, qui met en lumière l'origine des vignes et l'évolution des pratiques de viticulture de ce pays, réputé pour ses bons vins. Cette vaste étude consistait à séquencer le génome de pépins de raisins exhumés de sites archéologiques de l'âge de fer, de l'époque de la Gaule romaine et de la période médiévale aux quatre coins de la France. La cinquantaine de pépins étudiés couvrait près de 4300 ans d'histoire de la vigne en France. Les plus anciens pépins analysés, notamment ceux trouvés à Nîmes, qui datent de l'âge du bronze, soit de 2300 à 2000 ans avant notre ère, et ceux exhumés à Latte, au sud de Montpellier, qui remontent à l'âge du fer, soit de moins 500 à moins 475 avant Jésus-Christ, était le résultat d'un croisement de vignes sauvages Vitis sylvestris, dont la variété dominante, Syl, S-Y-L, trait d'union W-2, est aussi la lignée sauvage la plus abondante aujourd'hui en France. Les chercheurs ont par ailleurs découvert les caractéristiques génétiques de variétés modernes domestiquées dans des pépins prélevés sur des sites remontant à l'âge du fer dans le sud de la France, notamment à Marseille, pépins datant de 600 à 400 avant notre ère, à Martigues de moins 300 à moins 200 et à Latte de moins 575 à moins 25. Début de la viticulture. L'apparition de ces variétés domestiques marque ainsi le début de la viticulture en France, souligne en entrevue l'auteur principal de cette étude, Ludovic Orlando, directeur du Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse. Citation. Autrement dit, les humains ont, à ce moment-là, à cet endroit-là du monde, mis en place la culture de la vigne. Mais ça ne veut pas dire que la viticulture est apparue pour la première fois dans le monde à ce moment-là. La culture de la vigne est apparue dans notre jeu de données, en France, pour la première fois il y a 2600 ans avant aujourd'hui. Mais comme nous avions moins d'échantillons datant de l'âge du bronze qui précède de 600 ans avant Jésus-Christ, On ne peut pas garantir que si on en avait séquencé plus, on n'aurait pas trouvé quelque chose un peu plus tôt. C'est pourquoi on qualifie cette date d'antequem, Q-U-E-M, date à partir de laquelle il n'est plus possible d'en douter. Cela dit, 600 ans avant notre ère, c'est ce que les archéologues ont toujours écrit pour la France, ellipse, et qui correspond au moment où les Grecs fondent la cité de Marseille, fin de l'ellipse, précise le chercheur. Citation, « La domestication, soit l'acte de transformer le sauvage en quelque chose que l'on cultive pour la première fois, est apparue bien avant », précise-t-il, fin de citation. Selon une étude parue dans Science en 2023, la vigne sauvage aurait été domestiquée simultanément, mais indépendamment, dans le Caucase et dans le Croissant fertile, cette bande de terre du Proche et du Moyen-Orient qui borde la Méditerranée, il y a 11 500 ans. Croisement de l'âge du fer. Les données génétiques recueillies par les chercheurs indiquent aussi que les diverses variétés domestiques qui sont présentes en France dès l'âge de fer possèdent, citation, des liens génétiques avec des variétés du Levant, Proche-Orient, de l'Asie du Sud-Ouest, des Balkans et de la péninsule ibérique, et résultent vraisemblablement d'échanges multiples sur de longues distances, fin de citation, spécifient les auteurs de l'article. Mais les vignes cultivées durant l'âge de fer dans le sud de la France ne se composaient pas strictement de variétés domestiques. Elles étaient souvent issues de croisements avec des vignes sauvages locales, voire du Levant. Citation, on voit que les cultivateurs ont mélangé des vignes. Ont-ils fait ces croisements de manière volontaire dans le but de développer de nouvelles variétés mieux adaptées aux conditions environnementales locales? On ne peut pas le dire avec nos données, affirme M. Orlando, fin de citation. Pendant la domination romaine, de tels croisements ont eu lieu autant dans la partie nord de la France, Troyes, Orbourg, Wir, que dans le sud, Nain, Valros, Antibes, et avec des vignes sauvages du Levant et du Caucase, voire des lignées communément utilisées aujourd'hui comme cultivars, variétés cultivées, fin de parenthèse, au Caucase. Citation, ces observations indiquent que des contacts de longue distance se sont poursuivis durant la période romaine et ont apporté des graines et des boutures en France, soit directement du Levant et du Caucase, soit indirectement par la Grèce ou l'Italie. Ces introductions ont visiblement été intégrées avec succès dans le système de viticulture locale et ont contribué à la diversité génétique des vignes cultivées dans la Gaule romaine, décrivent les auteurs, fin de citation. L'importance des boutures. Les chercheurs ont également pu déterminer le moment où l'on a commencé à avoir recours à la reproduction végétative par bouturage, parenthèse à partir d'une feuille, fin de parenthèse, ou par marcottage, parenthèse par enracinement d'une tige, fin de parenthèse. Cette technique de reproduction qui produit des clones, soit des vignes génétiquement identiques à la plante mère, aurait été utilisée dès l'âge de fer, comme en témoigne l'adéquation génomique entre des pépins datant de moins 625 à moins 500 trouvés à Saint-Maxime et des pépins datant de 500 à 400 avant notre ère exhumés à Marseille, situés à environ 40 km. Autre exemple encore plus patent de l'usage de la propagation végétative durant l'époque romaine, un pépin datant des 50 premières années de notre ère, trouvé à Orbourg-Wir, dans le nord-est de la France, s'avère génétiquement identique à deux pépins mis au jour dans le sud de la France, plus précisément à Mauguiot, 0-200, et à Valros, 100-200. situés respectivement à 560 et à 610 km de Orbourg-Ouille. De plus, des copies conformes de Pépin provenant de Limoges et liées à l'époque romaine, 170 à 240, ont été découvertes sur le site médiéval de Valenciennes, 1100 à 1200. L'existence de clones séparés chronologiquement par un millénaire et géographiquement par 530 km confirme que la reproduction végétative était devenue une technique répandue dans la culture de la vigne en France durant les périodes romaines et médiévales. Photo Sébastien Bozon, Agence France-Presse, détail d'une grappe de pinot noir destinée à la production de créments au vignoble du domaine Mohlinger à Wettolsheim, dans l'est de la France, en août 2025. Citation: de toute évidence, cette technique était aussi un moyen de perpétuer des variétés de vignes qui s'avéraient précieuses en raison de leurs propriétés intéressantes et de se les échanger. Note Ludovic Orlando, fin de citation. Les chercheurs ont également remarqué que le génome de Pépin datant de 1027 à 1160, extrait du site médiéval d'Ibiza, I-B-I-Z-A en Espagne, concordait exactement avec celui du cultivar Folha, F-O-L-H-A, de Figueira, une variété de raisin blanc qui pousse aujourd'hui au Portugal. De plus, un échantillon prélevé à Valenciennes et remontant entre 1400 à 1500 s'est avéré identique à la très renommée variété de raisin rouge Pinot Noir, qui est aujourd'hui l'une des plus prisées par l'industrie du vin, car elle est à l'origine des bouteilles les plus prestigieuses du monde. Citation: le Pinot Noir était déjà bien établi au 15e siècle, et la version de cette époque est génétiquement la même que celle d'aujourd'hui. Le Pinot Noir est aussi connu pour avoir influencé beaucoup de cépages, c'est-à-dire que beaucoup d'autres types de vignes ont comme ancêtre le Pinot Noir. Ellipse, ils y sont apparentés au premier ou au second degré, fin de l'ellipse. Autrement dit, ces vignes ont été mélangées avec le Pinot Noir à un moment donné, explique M. Orlando, fin de citation. C'était « Le Pinot Noir actuel est génétiquement identique à celui du Moyen Âge », un texte de Pauline Gravel publié le 24 mars 2026 dans Le Devoir.